Bonsoir Boris Cyrulnik.
Bonsoir.
C'est toujours une joie de vous retrouver. Je vous remercie d'être venu ce soir nous parler de votre dernier livre, Au saccage des petits bonheurs, aux éditions Odile Jacob, évidemment. Dans votre livre, vous nous dites que les promesses technologiques sont en train de détruire l'empathie. Alors, que reste-t-il de la civilité ?
Alors, sans empathie, on ne pourrait pas vivre ensemble. Il faut être empathique, c'est-à-dire il faut que je m'intéresse à votre monde mental. Je ne sais pas qui vous êtes, je veux découvrir vos racines, je veux découvrir comment vous pensez, c'est intéressant. Ça, c'est l'empathie. Mais si je suis malheureux, s'il y a une catastrophe familiale ou une catastrophe sociale, je vais être centré sur moi, je vais me replier sur moi, et dans ce cas-là, je vais altérer mon empathie. Et c'est ce qu'on voit dans les pays en guerre, où il y a un arrêt total de l'empathie pour les autres. Et ça donne des situations de catastrophe, puisque quand il y a un pays en guerre, tuer un autre, c'est la fête. Si vous tuez un Allemand en 1942, à Bordeaux, vous êtes décoré. Si vous tuez le même Allemand en 1946, vous êtes emprisonné. C'est-à-dire que c'est le contexte qui donne sens au même acte. S'il n'y a pas d'empathie, la morale est complètement métamorphosée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'empathie, je peux tout me permettre. J'ai une pulsion, il y a d'altérité, je ne vous connais pas, ça ne m'intéresse pas. Mon empathie est arrêtée, je peux tout me permettre. Et c'est ce qui se passe dans les pays en guerre, c'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, où il y a de plus en plus d'agressions sexuelles et il y a de plus en plus d'inceste. Ça, c'est les chiffres sont stupéfiants. Et ça, c'est toujours la preuve d'une désorganisation familiale et sociale. Donc, c'est des marqueurs tragiques de la décivilisation. Voilà, c'est un peu ce qui a motivé notre besoin de réflexion, parce que notre culture augmente la punition. Vous avez remarqué que actuellement, les agresseurs sexuels, il y a des agresseuses sexuelles, mais il y a beaucoup moins que d'hommes. Il y en a, mais beaucoup moins que d'hommes. Lorsqu'ils sont de plus en plus punis, les chiffres d'agressions sexuelles augmentent. C'est pas la punition qui va prévenir l'agression sexuelle, c'est l'éducation et le développement de l'empathie.
Et il en est question dans votre livre, puisque justement vous dites que on ne peut pas tout rattraper, et notamment le langage. Et finalement, dans votre texte, vous nous démontrez que le langage est un des pivots essentiels, évidemment, puisque l'empathie veut dire déjà dialoguer avec l'autre. Et vous revenez sur les travaux de Bowlby, par exemple, sur l'attachement. Vous dites qu'aujourd'hui, on fait vraiment fausse route. On a perdu le plaisir de partager du temps ensemble. Vous donnez deux exemples. Par exemple, vous dites que pour un enfant, embrasser sa maman sur la joue, c'est un effort musculaire. C'est un apprentissage musculaire. Puis vous dites aussi que faire un dessin et l'offrir à sa maman ou à son papa, c'est un signe qui indique qu'on partage le même monde. Et si finalement on n'apprend pas ces gestes-là vers l'autre, en partage avec l'autre, ça ne se rattrape pas.
Alors, ce qui se rattrape pas, la résilience, ça marche pas à tous les coups. Hein. Ce qui se rattrape pas, c'est l'isolement précoce, intense, durable. Et alors là, si je dis ça, c'est parce qu'il y a des. Je l'ai vu en clinique en Roumanie, au Québec, en France, partout où un enfant est isolé, il y a une atrophie cérébrale. Vous avez bien entendu, hein, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant est privé d'affection ou de stimulation de la vie quotidienne, embrasser, toucher, parler, caresser, sourire, la vie quotidienne, il y a des enfants qui sont tellement isolés qu'ils n'ont pas ces stimulations cérébrales. Et quand on fait des neuroimageries comme je l'ai fait, comme je l'ai vu plutôt, quand on fait des neuroimageries, on voit les zones cérébrales atrophiées parce qu'il n'y a pas eu de stimulation extérieure. S'il y a des gens dans la salle qui pensent encore qu'il faut raisonner en termes d'inné et d'acquis, ils vont passer une mauvaise soirée. Parce que les deux sont en interaction constante. Mais dans ce cas-là, il y a un développement personnel et une rencontre. Le développement personnel, c'est l'éducation préverbale, et la rencontre, c'est la rencontre affective, c'est la rencontre verbale, c'est la rencontre culturelle. Alors, vous avez pris un exemple que je cite souvent, merci de m'avoir tordu la parole. Vous avez pris cet exemple, c'est que un enfant, quand il arrive au monde, il ne sait pas comment il faut faire pour vivre. Il a besoin d'une image, d'une figure rassurante, c'est maman ou un substitut maternel. Ça peut être une autre femme, ça peut être un métier de la petite enfance, ça peut être un homme. Depuis qu'on a fait le rapport des 1000 premiers jours, il y a de plus en plus d'hommes, de jeunes papas, qui participent à l'éducation précoce des enfants. Ça, c'est un grand succès pour les femmes. Elles dépriment beaucoup moins. Pour les hommes, qui découvrent la fatigue et le plaisir de s'occuper d'un bébé. Et c'est un cadeau pour le bébé qui apprend à aimer de manière différente. J'aime maman d'une certaine manière. J'aime celui qu'on appelle, que de mon temps, on appelait papa.
On n'appelle plus papa les papas aujourd'hui ?
Et non, on dit premier parent, deuxième parent.
Ouais, c'est extrêmement sexy quand même.
Alors ça, c'est un peu technique et ça manque un peu de poésie, par bonheur. Et donc ça veut dire qu'on est en train de changer de culture, c'est de civilisation, c'est le thème du livre. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal, ça veut dire qu'il faut tout repenser, les rôles, le développement, les rôles parentaux, les rapports hommes-femmes, mais ça c'était déjà en marche avant notre rapport, mais c'est encore à repenser. Et alors, quand un enfant arrive au monde, il a besoin d'une figure d'attachement sécurisante, familière, pour voir comment on peut vivre dans ce monde curieux qui est un monde humain. Si maman s'éloigne, et il faut qu'elle s'éloigne, si elle n'est jamais là, c'est la catastrophe neurologique, comme je l'ai proposé tout à l'heure. Si elle est toujours là, c'est un appauvrissement sensoriel. Donc c'est facile pour les femmes, hein. Il faut qu'elle soit là et qu'elle soit pas là. Débrouillez-vous. C'est-à-dire que... Mais c'est ça, c'est le rythme naturel. Il faut que maman soit là et il faut qu'elle s'éloigne de temps en temps pour travailler, pour mener sa vie. Et ce manque de mère momentané est nécessaire pour donner l'impulsion de la création artistique. Et alors là, on a des preuves faciles que tout le monde dans la salle a déjà obtenues, c'est-à-dire que maman s'en va, ou bien l'enfant a peur, il pleure, et il se pleure, il attend le retour de maman, il se fige, ou bien il prend un papier, un crayon, des crayons de couleur, et à ce moment-là, il fait un petit dessin, généralement c'est un cœur, avec des crayons de couleur différentes, des bouts de laine, des cailloux, et puis quand il sait écrire, il écrit généralement, il écrit « Maman, je t'aime ». Et c'est sa première œuvre d'art. Et c'est sa première victoire épistémologique. Mais si vous dites à un bébé de 3-4 ans, il faut que tu remportes ta première victoire épistémologique, vous aurez assez peu de succès. Mais si vous poussez des cris, ce que font toutes les mères, vous poussez des cris d'admiration, « Oh, comme c'est beau, comme tu es gentil !» Et hop, on s'embrasse, c'est la fête affective. C'est-à-dire que l'enfant a remplacé le manque momentané de mère par une œuvre d'art. Et au moment où il fabrique sa petite œuvre d'art, il anticipe la fête affective et les mots de maman. Il n'est plus soumis à la perte de la mère. Il a acquis un moyen de s'exprimer pour attendre et pour espérer le retour de sa mère. C'est la fonction des œuvres d'art.
Et dans votre livre, vous dites que le manque provoque un malaise dont nous n'avons pas conscience, contrairement au deuil, qui lui provoque un malaise dont on a pleinement conscience.
Alors, il faut en prendre conscience. Et alors, il faut avoir des petites angoisses de façon à pouvoir apprendre à les surmonter. Quand j'ai une angoisse, je téléphone, je pense à quelqu'un que j'aime, je pense à un projet que j'ai envie de faire, je téléphone à quelqu'un que j'aime ou je vais me promener sur la corniche de Tamaris. J'habite à Toulon, qui est le meilleur club de rugby du monde. Non, et ça, c'est pas discutable.
Vous allez repartir par l'éloge discrètement.
Donc, ça veut dire que si la mère n'est jamais là, c'est la catastrophe neurologique, c'est pas une vue de l'esprit, on le photographie. Si la mère est toujours là, c'est un appauvrissement du monde. Il faut donc qu'il y ait une alternative, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, qu'elle soit là, qu'il y ait quelqu'un d'autre à aimer. J'aime ma papa ou j'aime mon oncle de manière différente de j'aime ma mère. C'est pas pareil. Et dans la retrouvaille affective, il y a ce que j'appelle dans mon livre l'ontogenèse du bébé, du baiser. L'ontogenèse, c'est-à-dire la phylogenèse, c'est comment on se développe à travers toutes les espèces, parce que beaucoup d'animaux ont accès aussi au baiser. Les primates non humains s'embrassent, les bonobos s'embrassent. J'ai été à Palo Alto, j'ai été à San Diego avec une vedette bordelaise, professeure de neurobiologie à Bordeaux, et on va visiter les bonobos. Et stupeur, on a vu les mâles et les femelles s'embrasser sur la bouche. Et visiblement, c'était pas, ça voulait dire, ça exprimait quelque chose. Les chiens ne s'embrassent pas, ils se lèchent. Ils se lèchent la bouche. Quand il y a un conflit, un chien se met sur le dos, et quand le dominant arrive, le chien qui est sur le dos... Pourquoi sur le dos? Parce que sur le ventre, il n'y a rien d'agressif. Il n'y a pas de crocs, il n'y a pas de griffes, il n'y a rien d'agressif. Alors que quand le chien est debout, il y a des crocs, il peut montrer ses dents, c'est agressif. Alors il se met sur le dos pour désarmer le chien dominant et il lui donne un coup de langue sur le museau et hop, le rituel, ça je le reprendrai tout à l'heure, le rituel d'interaction leur permet de vivre ensemble. Comme nous, nos rituels de civilisation nous permettent de vivre agréablement ensemble. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces rituels de civilisation s'usent, fonctionnent de moins en moins. C'est les bêtises du quotidien. Quand on voit un jeune qui met les pieds sur la banquette devant, c'est pas grave, on n'appelle pas la police. Mais ça prouve qu'il n'y a pas d'empathie. Ça prouve, j'ai envie d'étendre mes jambes, je les mets devant, je pense pas aux autres. Ça, c'est un petit rite, c'est un petit signe, hein, un petit signal de dérive. C'est pas grave, mais ça veut dire qu'on ne lui a pas appris à faire attention aux autres. Tu ne peux pas tout te permettre.
Et ces rituels, vous les attachez à des notions qui sont très intéressantes, par exemple à notre rapport à la mort. Et vous dites, bien sûr, par exemple, le fait d'enlever ses chaussures, ses pieds de la banquette d'en face, on pourrait le faire, mais quelque part. Aujourd'hui, la longévité qui a augmenté fait qu'on remet tout à demain. On ne fait pas les choses, y compris nos rituels d'altérité.
Et ben voilà, c'est ça.
Très bien, on va y aller. Je m'en vais. Donc voilà, vous nous racontez que cette façon d'appréhender le monde en remettant à demain raconte parfaitement la civilisation dans laquelle nous sommes, qui est une civilisation, du coup, qui a changé de prisme, vous nous dites, depuis les années 70, notamment entre les vainqueurs et les vaincus.
Alors, c'est la première fois dans l'histoire humaine que les femmes, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, probablement elle va devenir centenaire ou autour. C'est la première fois dans l'histoire humaine que ça arrive. Quand mon ami Bench, qui était professeur à Bordeaux, a fait des enquêtes en Bretagne et en Aquitaine sur les églises, actes de baptême, actes de mort, il avait des archives. Et il constate que, jusqu'à la découverte de Semmelweis, la prophylaxie de l'accouchement, 1859, on va dire milieu 19e siècle, Semmelweis à Buda, qui n'était pas encore Budapest, il découvre la prophylaxie de l'accouchement. Dès qu'il découvre ça, l'espérance de vie des femmes augmente nettement. Il fait une école de sages-femmes. Dès qu'une sage-femme arrive dans un village en Bretagne, l'espérance de vie des femmes augmente nettement. Avant la découverte de Semmelweis, l'espérance de vie des femmes, 36 ans. Elles avaient à peine le temps d'arriver au monde, de connaître une dizaine de grossesses, d'arriver à faire 4 adultes, et elle mourait. Donc la technologie est énorme, et la technologie a même probablement permis à l'espèce humaine de survivre, parce qu'il y a eu des glaciations énormes. Et à chaque glaciation, il y a un rétrécissement de squelette humain. C'est-à-dire que deux fois déjà, les êtres humains n'ont pas été une espèce en voie de disparition. Déjà deux fois, les êtres humains ont été une espèce disparue. Il n'y avait pratiquement plus de squelettes sur la planète. Et qu'est-ce qui s'est passé? La technologie, quelqu'un, un homme, une femme, je ne sais pas qui, découvre que en taillant les silex sur les deux faces, on peut emmancher le silex et que à ce moment-là, si on arrive à le planter dans le corps d'un animal beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort que nous, on pourra s'en nourrir. Et donc, ça oblige à valoriser la violence masculine, j'ai bien dit, ça oblige à valoriser la technologie et ça permet de répartir la viande en quartiers signifiants. C'est-à-dire qu'on a retrouvé en Sibérie un mammouth qui avait un silex planté dans le cœur. Quelqu'un s'était glissé entre ses pattes pour lui enfoncer le silex dans le cœur. Dans les grottes, il y a beaucoup de dessins, et dans Dordogne, pas loin d'ici, il y a des dessins où on voit des bonshommes les bras en croix. À côté, il y a un bison en train de dégueuler ses tripes. Donc on peut penser que l'homme a été tué par le bison au moment où il cherchait à le tuer. La violence était civilisatrice. Dès l'instant où la technologie, la violence ne sont la technologie et surtout la violence dans un pays en paix, la violence n'est que destruction. Dans un pays en difficulté, la violence est civilisatrice. La plupart de nos frontières sont le résultat de guerres entre aristocrates. Si on parle français en France, c'est parce que la langue bretonne et la langue basque ont été longtemps combattues. Si il y a des cartographies de religion, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. La violence était civilisatrice. Et une fois que la civilisation est faite, la violence n'est que destruction. Mais vous allumez votre télé ce soir et vous remarquerez que il y a des pays, certains pays au monde aujourd'hui, où la violence redevient une valeur adaptatrice. Mais par bonheur, la technologie aujourd'hui a complètement modifié les conditions des guerres. Les guerres napoléoniennes, c'était du corps à corps. Les guerres de 14-18, où 1,5 million de jeunes garçons qui n'avaient pas le droit de vote ont été sacrifiés, ça se passait parfois au corps à corps, mais déjà il y avait des armes. Ensuite, la guerre de 40, c'était les aviations, et c'était les avions et les tirs au loin. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de corps à corps et de plus en plus de machines qui provoquent la destruction de l'autre civilisation. On retrouve, pour répondre à votre question, c'est la technologie qui permet d'organiser les guerres, parfois pour notre bien, parfois, par exemple, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans, jusqu'à la découverte de Semmelweis. J'ai eu la chance de travailler au Congo il y a quelques années. Aujourd'hui, au Congo RDC, l'espérance de vie des femmes est de 40 ans, aujourd'hui. Alors que dans les pays civilisés, l'espérance de vie des femmes frôle les 100 ans.
Mais cette histoire de civilité, vous la remettez quand même en question. Parce que vous adressez à vos lecteurs en disant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout n'est qu'une histoire de récit et de contexte. Vous dites par exemple que vous avez assisté en fait à une explosion de joie dans votre vie pour la fin de la guerre.
À Bordeaux.
Oui, à Bordeaux, qui était quand même une bombe au Japon qui aura tué 200 000 personnes. Et pourtant, vous étiez devant un spectacle d'une explosion de joie. Donc quand même, vous nous retoquez un peu en nous disant, attendez les gars, en France, une petite fille qui est enceinte à 12 ans, c'est grave. Mais ailleurs, pas forcément.
Voilà. J'étais à Bordeaux en 1945. J'étais même au Grand Hôtel en même temps que le général de Gaulle. Et je lui ai offert un bouquet de fleurs. Il y avait une petite blonde à côté de moi. Et il a pris dans ses bras la petite blonde et pas moi. Ma carrière politique s'est arrêtée ce soir-là. Je devais avoir 7 ans, 8 ans. Alors, je suis très content de ma réponse, mais votre question, c'était quoi?
Ma question, c'était sur le récit et le contexte. Et vous nous retoquez en nous disant, est-ce que vous êtes bien sûr, en Occident, que vous êtes civilisé?
Voilà. Alors, en 45, à Bordeaux, j'étais chez la Marguerite Farge, une juste qui me protégeait, et tout d'un coup, je vois tous ces adultes exploser de joie, sortir dans la rue, s'embrasser, entre inconnus. Et puis je voyais que des messieurs que je connaissais pas embrasser Margot, la juste qui me protégeait. Ça m'étonnait beaucoup qu'elle se laisse embrasser par des gens qu'elle connaissait pas, mais tout le monde embrassait tout le monde. Et j'entends dire Hiroshima, et c'était la joie, c'était l'explosion de joie à Bordeaux. Et on m'a expliqué que cette explosion de joie était provoquée parce que il n'y avait que 200 000 morts. Je ne sais pas si c'est le chiffre, en tout cas c'est le chiffre qui est dans ma mémoire, parce qu'on me l'a dit. Et on m'a expliqué que 200 000 morts, c'était bien. Parce que ça permettait d'arrêter la guerre, les Japonais étaient obligés de capituler, sinon ils allaient tous être détruits. C'était avant Nagasaki. Mais sinon, donc c'était bien, les Japonais avaient allaient capituler, et on m'a expliqué que 200 000 morts, ça permettrait d'éviter 4 millions de morts japonais et occidentaux. Donc c'était moral. L'explosion de Hiroshima, c'était un acte moral qui provoquait la joie. Arrêt de l'empathie. C'est-à-dire que ce qui vaut dans un contexte ne vaut plus quand le contexte change. Et aujourd'hui, si on dit à un jeune, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tout le monde me paraît jeune.
Je ne sais pas pourquoi non plus.
moi, j'ai pas changé. Mais alors vous, qu'est-ce que vous avez rajeuni alors? Donc ça veut dire que même la notion de morale est une notion relative qu'il faut contextualiser. Les nazis voulaient tuer les juifs, les malades mentaux et ceux qui troublent l'ordre public au nom de la morale pour épurer la société. Et on voit réapparaître actuellement au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en France aussi, on voit réapparaître le même argument, le même. J'arrive au dernier chapitre de ma vie, j'entends les mêmes phrases que celles que j'ai entendues quand j'étais dans la région bordelaise, quand j'étais à Bordeaux pendant la guerre et après la guerre. Si l'assiette est vide, c'est parce que les Juifs ont provoqué la guerre pour gagner plus d'argent. Avant-hier à Toulon, j'ai entendu la même phrase. C'est-à-dire que, comme si on n'avait rien transmis à nos enfants. Et ils sont obligés de refaire le même chemin tragique que nous. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir leur propre expérience, de faire leurs propres bêtises, de souffrir et parfois de faire leurs propres crimes. Le racisme est un crime. C'est-à-dire qu'ils pour refaire le même chemin, pour se faire eux-mêmes leur opinion.
Et pourquoi sommes-nous amnésiques ?
Pourquoi
sommes-nous amnésiques alors ? Pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas que cette guerre a eu lieu ?
Alors, je pense que la transmission se fait de différents moyens. Il y a une transmission biologique, c'est-à-dire qu'il y a deux prix Nobel qui ont été accordés dans les 10 dernières années sur l'épigenèse. Quand la mère, ou maintenant depuis quelques mois, on sait que c'est vrai aussi pour le père, quand la mère est stressée, ses ovocytes sont altérés par les substances du stress de la mère. Elle a un malheur, quelle que soit la guerre, la précarité, la violence conjugale, la pauvreté, un accident, un tremblement de terre, elle a un malheur dans sa vie. Les substances du stress altèrent les ovocytes qu'elle porte. On sait maintenant que c'est pareil pour les spermatozoïdes. C'est quand le père est stressé, les spermatozoïdes sont altérés. C'est-à-dire que l'enfant qui va naître de ses parents stressés aura déjà un développement cognitif altéré par le malheur des parents. J'ai bien dit, c'est l'histoire des parents qui va modifier le développement biologique des enfants. Mais c'est résiliable. On sait que donc, il y a eu la famine de Saint-Pétersbourg, et il y a eu 800 000 morts de faim à Saint-Pétersbourg pendant la guerre, et 80 femmes enceintes ont quand même réussi à mettre au monde 80 bébés. Ces bébés étaient atrophiques, bien sûr, ils ont eu un retard de développement, bien sûr, mais quand ceux qui ont pu avoir une niche affective, sensorielle, sécurisante, un nouveau foyer, Ceux-là ont rattrapé leur retard et ont repris un bon développement. C'est la définition de la résilience. J'en ai rencontré plusieurs, dont une qui est née à Auschwitz d'une mère affamée. Et cette fille est devenue psychiatre. Ça prouve quand même qu'il y a encore des séquelles, quoi. C'est-à-dire, ça prouve... tout n'est pas réglé. Hein. Donc, et alors, ça, c'est la première transmission résiliable. La deuxième transmission, on en parlera sûrement tout à l'heure, c'est ralentir le développement, au moins dans les âges, dans les années préverbales d'un bébé, pour lui offrir une stabilité, au moins si les parents ne s'entendent pas ce qui arrive, au moins qu'ils aient les trois premières années, dont la grossesse. La grossesse, c'est la première année de la vie, et deux années avant l'apparition de la parole stable, de façon à ce que l'enfant puisse acquérir la confiance en lui. Voilà, ça c'est... S'il y a une rupture à ce moment-là, ça sera difficile, la résilience.
Et en termes de rupture, alors là, voilà, on est en plein dedans quand même. Ça, c'est le cœur d'un problème majeur. Vous nous expliquez que nous sommes en perpétuelle adaptation du monde et que pour les bébés, c'est une catastrophe.
Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est vivant meurt. Les plantes meurent, les cours d'eau changent, les plantes qui nous entourent sont plus les plantes qui entouraient nos ancêtres au Moyen-Âge, les animaux sont pas les mêmes, il y avait des tigres à dents de sabre à Bordeaux. Et vous avez remarqué que depuis les dernières élections, il y en a plus. C'était... Donc il y avait les animaux, il y avait des fémurs, les archéologues retrouvent des fémurs de dinosaures qui ont disparu il y a 60 millions d'années, il n'y en a plus. C'est-à-dire que tout ce qui est vivant change, et nous, êtres humains, on change comme les animaux, sous l'effet des pressions du milieu, mais en plus, comme nous, on est la seule espèce vivante qui a accès à la parole au cours de la troisième année, et au récit au cours de la cinquième, septième année, nous, on a une évolution, une adaptation nécessaire et possible biologiquement, comme les animaux, et narrativement, comme les êtres humains. Et là, il nous faut, comme l'enfant qui fait un dessin, comme nous, il faut qu'on lise, les jeunes lisent de moins en moins, il faut qu'on lise, il faut qu'on aille au théâtre. Le théâtre avait une fonction de démocratie, c'est-à-dire que les comédiens mettaient sur la scène du théâtre les problèmes de la cité. Et ensuite, on fermait les portes et les citoyens devaient en débattre. Le plus célèbre débat, c'est la controverse de Valladolid. J'ai été à Valladolid, je ne sais pas pourquoi les Espagnols ont ce chapeau du Cucuclan que je trouve assez angoissant. Si quelqu'un, il y a sûrement des gens dans la salle qui ont la réponse, mais c'est assez angoissant. Ce qui était magnifique, à la controverse, les Espagnols mettaient au point des disputations. Et la controverse de Valladolid est la plus célèbre parce que, avant la controverse, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont vu des hommes et des femmes qui n'avaient pas la même couleur de peau qu'eux. Donc, ils étaient inférieurs. Mais pourquoi ils étaient inférieurs? Mais parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. Ah bon, alors ça, c'est un argument solide. Alors. Donc, et vous savez bien que ça existe encore, ça. Et là, il y a un débat. Et au cours de ce débat, les Indiens, il y a un vote, ensuite, ils disent comme les Suisses, il y a une votation, et ensuite, les Indiens ont acquis une âme à une voix de majorité. Dès l'instant où ils ont une âme, même si la couleur de peau n'est pas la même, dès l'instant où ils ont une âme, c'est des êtres humains. On ne peut plus les tuer, c'est un crime. Si on tue quelqu'un qui a une âme, c'est un crime. Si on tue un être vivant qui n'a pas d'âme, comme on le fait pour les animaux, comme on le faisait pour les Indiens, c'est pas grave, c'est pas des êtres humains. Comme je l'ai entendu au Congo, comme je l'ai entendu au Rwanda, c'est pas grave, les Hutus, les Tutsis sont des cancrelats, c'est quand même pas un crime d'écraser un cancrelat. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait de l'autre, on rejoint votre question sur l'empathie, l'idée, s'il n'y a pas de culture pour apprendre le plaisir de découvrir un autre monde mental que le nôtre, une autre civilisation que le nôtre, que la nôtre, une autre religion, d'autres valeurs, une autre civilisation, c'est agréable. Et donc, mais là, voyager, découvrir d'autres sculptures, d'autres croyances, c'est passionnant. S'il n'y a pas une éducation qui permet aux enfants d'apprendre à découvrir une autre croyance, une autre religion, une autre culture que la nôtre, il va y avoir le repli sur soi, ce qu'on voit réapparaître, y compris en France, le langage totalitaire où seul un chef a raison. Ce chef, ça peut être un chef religieux, fanatisme religieux, ça peut être un chef politicien, fanatisme idéologique, ça peut être un chef économique. Et dans ce cas-là, c'est le seul, on ne discute pas, il a raison. Et dans ce cas-là, on voit réapparaître le plaisir de vivre en clan, le plaisir d'avoir un sentiment d'appartenance. Il pense comme moi, il a les mêmes croyances que moi, il croit au même Dieu, dollar, que moi, il croit. Donc, je me sens bien avec lui, avec elle. Et alors que Hannah Arendt, en préparant tout à l'heure notre discussion, on a parlé d'Hannah Arendt. Si vous n'avez pas lu Hannah Arendt, vous êtes obligé de lire Hannah Arendt, le totalitarisme. Et quand c'est un discours, un narratif séduisant, parce que il donne des certitudes, il évite l'effort de pensée. Alors ça, c'est un succès énorme. Il crée un sentiment d'appartenance. Si on récite les mêmes slogans en même temps, on éprouve un sentiment de fraternité. On est complètement aveugle et on est heureux. C'est ce qui se voit actuellement. On voit que ça réapparaît de plus en plus. En France, un peu, mais il y a des pays où vraiment le langage totalitaire est la règle. Et ça, c'est très grave parce que ça mène à l'arrêt de l'empathie, à l'assassinat des autres sans aucune culpabilité. Ce qu'on a connu en France en 1945, où les inculpés de Nuremberg ont tous prétendu qu'ils n'étaient coupables de rien. Ils ont tué... Il y a 6 millions de personnes qui n'étaient pas armées. Ils les ont tués dans des conditions effrayantes. Aucune culpabilité, parce qu'il n'y a pas le décentrement de soi que donne l'empathie. On est dans un clan, on arrête de penser, parce qu'on récite quelques slogans, quelques-uns, pas, c'est pas très nombreux, hein, quelques phrases toujours les mêmes, c'est tout bénef. On arrête de penser. On n'a que des amis, on est complètement aveugle. Alors qu'Hannah Arendt, qui pose des problèmes, a perdu ses amis en posant des problèmes. À propos d'Eichmann, tout le monde disait Eichmann est un monstre parce qu'il a tué 800 000 personnes avec un stylo. Eh ben non, il a commis un acte monstrueux. Et la surprise, c'est que c'est pas un monstre. C'est un homme qui s'est laissé embrigader dans des croyances sans doute possible. Et je dirige actuellement une thèse d'un Ivoirien qui est prêtre et qui fait une thèse de psychologie où justement, il réfléchit à la fonction du doute. Doute, remettre en question ses croyances. Que ce soit des croyances religieuses, économiques ou artistique, dès l'instant où on doute, on a un degré de liberté, puisque si on doute, on a un choix.
Oui, oui, en fait, vous nous invitez à penser contre nous-mêmes, finalement, exactement comme Hannah Arendt l'a fait aussi, bien sûr, et dans votre livre, vous nous convoquez à cet endroit vraiment de facilité de rejoindre un clan ou une communauté, avec des arguments fallacieux et très simples, puisque vous dites, il suffit que quelqu'un vous donne la sensation de vous comprendre, il n'a pas besoin d'arguments autres que simplement vous donner la sensation de vous comprendre pour tout d'un coup fédérer des milliers de personnes et les embarquer. Mais vous revenez sur une notion très, très importante, sur l'enfance, puisque vous dites que le manque de socle pérenne chez l'enfance, le fait qu'il soit en rupture permanente de tout dans sa vie, comme nous on l'est d'ailleurs, et chose avec laquelle nous adultes, on essaye de s'adapter, mais l'enfant lui ne peut pas s'adapter. Vous nous dites ça, cette cassure permanente favorisera ça.
Alors voilà, pendant les 1000 premiers jours, on a commencé les travaux en 82. Aux Ambiers, près de Toulon, une petite île très belle, avec un bel amphithéâtre, où on a commencé à se poser la question, parce que je fais partie d'une génération où, à la fac de médecine et à la fac de psycho, on nous apprenait que tant qu'un enfant ne parle pas, il peut rien comprendre. S'il y a des mères dans la salle, elles vont être un peu étonnées quand même. C'est-à-dire que on avait tellement privilégié la parole qui existe, qui est la caractéristique, l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe, c'est ce qui caractérise la condition humaine. Ce qui fait son triomphe et sa perte, les deux. C'est-à-dire que on s'est demandé, c'était l'époque de Cousteau et de Louis Malle, Le Monde du Silence. Vous vous rappelez peut-être, c'était des films très beaux. C'était Le Monde du Silence, dans l'eau, c'est le silence. Or, on a monté je travaillais avec des marins, des acousticiens du laboratoire de marine au Brusque. Et ils ont des capteurs souterrains. Il y a beaucoup de bruit dans la mer, il y a un barouf. Et sur quand une vache a mis après rupture de la poche des eaux, on a monté un minuscule hydrophone avant la sortie du petit, après la rupture de la poche des eaux. Dans un utérus, il y a un barouf, mon vieux. Mais alors, il y a un bruit énorme. Alors, il y a le bruit du placenta. C'est-à-dire que si le bébé a la tête près du placenta, il entend l'équivalent d'un force 7 dans les hauts-bois. Pour les marins qui sont... Si la tête en bas, c'est force 2 ou 3 dans les hauts-bois. Donc, et puis il y a les gargouillis, parce que les mères mangent, donc il y a des gargouillis, il y a les bruits du cœur, et puis il y a les basses fréquences de la voix de la mère qui sont très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique, alors que les hautes fréquences sont très bien transmises. Ce qui veut dire que lorsque la mère parle, les basses fréquences de la voix viennent caresser la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, donc il y a une continuité. Quand le bébé arrive au monde, on avait disposé des femmes, des hommes autour du bébé. Madame qui n'est pas la mère, voulez-vous parler ? Le bébé répond pas. Madame qui est la mère, toc, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore. Madame, mettez-vous ici. Monsieur, voulez-vous parler ? Le bébé répond pas. Quelle que soit la place dans l'espace de la mère, toc, le bébé réagit, répond, dans l'heure qui suit sa naissance. Le premier nœud du lien de l'attachement est tissé. Ensuite, c'est la deuxième niche sensorielle, c'est le corps de la mère, à condition que la mère soit pas seule. Si la mère est seule, le bébé est prisonnier d'une seule stimulation, le même corps, la même voix. Si la mère est entourée par celui que de mon temps on appelait un mari, donc si la mère est entourée, le bébé a deux figures d'attachement. Une figure d'attachement primordiale, puisque statistiquement, je remarquais que quand un homme et une femme ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Et donc, c'est elles qui marquent les premières empreintes. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour apprendre une autre manière d'aimer. Le père, ça peut être une femme, ça peut être une grand-mère, ça peut être un métier de la petite enfance. Il faut qu'il y ait, mon maître Boulby disait, il faut qu'il y ait plusieurs figures d'attachement. Pas de femmes seules. L'an dernier à Paris, 60% des PMA, des procréations médicales assistées, ont été demandées par des femmes seules qui voulaient mettre au monde un enfant sans homme.
Mais ça, et vous nous racontez dans votre livre que c'est déjà une forme d'isolement finalement.
C'est déjà
une forme d'isolement pour un enfant qui a besoin d'avoir un entourage, voilà, quel qu'il soit. Parce qu'il peut y avoir des femmes seules, voilà, qui vont faire appel à la PMA, mais qui vont être très entourées.
C'est ça, absolument.
Donc,
alors, il y a des jeunes qui font des substituts familiaux, et il y a des PMA. Si le bébé qui arrive au monde a sa mère, il a déjà reçu l'empreinte intra-utérine de sa mère, et si la mère fait une nouvelle famille, le bébé se débrouille. Il a tout ce qu'il faut. Ce qui est appauvrissant, c'est quand une femme veut mettre au monde un enfant pour elle seule. Et dans ce cas-là, elle est seule avec le bébé, donc le bébé a un monde appauvri. Mais si elle met au monde avec un deuxième père, avec des copains, le bébé se débrouille.
Il y a un cercle. Mais vous nous racontez quand même que cette histoire d'adaptation permanente, où il faut, tac, changer, hop, et puis on part et on recommence, et en fait, où il n'y a pas de temps de pause.
Voilà.
Perturbe complètement le rapport, notamment à la violence.
Alors, tout à l'heure, vous m'avez invité à dire que ce qui a fait la survie humaine, c'est la violence de la technologie et la violence des hommes. Aujourd'hui, un homme violent ne fait que destruction. Ensuite, ce qui fait la permanence, c'est la permanence affective qui crée le sentiment de familiarité qui donne confiance aux enfants. Et dès l'instant où un enfant est en sécurité affective, dès qu'il est dans les bras, il a peur, maman n'est pas là. Il a peur, maman arrive, il se jette dans ses bras. Dès qu'il est dans ses bras, il pointe du doigt dans une autre direction. Pourquoi ? Parce que dès qu'il est sécurisé, il s'intéresse au monde extérieur. Quand il est insécurisé, il a peur, il se replie sur lui-même, il se blottit contre sa mère, il ne s'intéresse pas au monde extérieur. Ce que je viens de dire, on l'a évalué à l'école, où on voit des enseignants ou des familles ou des cultures très insécurisantes. L'école qui m'a sauvé est devenue insécurisante pour un très grand nombre d'enfants. Les enfants, beaucoup d'enfants, 30% des enfants vont aujourd'hui à l'école malades de somatisation, parce qu'ils ont peur de l'école, ça va trop vite. Ça les stresse. Une petite fille va vivre 100 ans. Qu'est-ce que ça peut faire si elle apprend le théorème de Pythagore avec un mois de retard? Qu'est-ce que ça peut faire? Elle va vivre 100 ans. Je comprends pas pourquoi on fait. Alors, les Américains, les bébés crient et sont inconsolables actuellement. J'ai été au Japon où les Japonais.
Mais pourquoi les bébés américains crient?
Ça va trop vite. Ah. Ils sont surstimulés. Les parents sont toujours au sprint. Les Américains parlent fort. Vous avez remarqué. Ils parlent.
Il y en a un surtout qui parle très fort. C'est sûr.
Donc, il y en a quelques-uns dont on parle beaucoup aujourd'hui,
oui, effectivement. Oui. Là, on l'a bien repéré, tout ça. On peut difficilement pas le voir. Mais donc, ça veut dire que cette rapidité, parce que dans votre livre, vous nous dites, les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est le produit de ce que nous avons créé et qui, en fait, sont en train de nous rendre esclaves. C'est aussi à cet endroit-là que vous nous dites qu'on manque sérieusement de civilité. C'est que, finalement, les machines ont déjà pris le dessus, nous imposent déjà de vivre d'une certaine façon. Avec une rapidité, un rapport au temps qui n'est pas le nôtre, avec une façon d'être à l'autre qui n'est pas correcte.
Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ou bien on est seul, on est désespéré, ou bien on est trop stimulé, on est épuisé. Alors si on est seul, il y a des altérations cérébrales. Si la mère ou si les circonstances nous font vivre dans un milieu appauvri, en affect et en parole, pour moi, la parole, à ce stade du développement, la parole a une fonction bien plus affective qu'informative. Les bébés préverbaux, ils ont une angoisse, et la mère dit « Oui, maman est là, elle est dans la pièce à côté, ça suffit. » L'enfant est sécurisé. Il a une information familière, et même souvent, ce qu'on voit, c'est que il faut pas fermer la porte. Maintenant, quand les bébés ont des chambres, ce qui n'est pas forcément mieux, mais dans ce cas-là, il ne faut pas fermer la porte pour que le bébé entende les parents, qu'il entende la télé et qu'il voit un peu de lumière.
Pourquoi c'est pas mieux ?
Pourquoi
c'est pas mieux la chambre ?
Parce que le bébé est isolé. Il a peur. Donc il a besoin d'être avec. Donc s'il est un bébé, quand on le met dans la cuisine, les Japonais sont très surpris de ça. Quand on se déplace, et j'ai un ami qui était bordelais et qui actuellement vit avec une Chinoise, et la Chinoise met le bébé dans la cuisine et dans son lit. Et le bébé n'a étonnamment pas d'angoisse de bébé, de pleurs de la nuit, étonnamment peu de pleurs, il n'a pas peur. Elle l'amène toujours. Dans la cuisine, tout le monde fait du bruit, rigole, et le bébé est familier.
Et finalement, donc, ce que vous nous expliquez, c'est que les nouvelles technologies, elles poursuivent cette forme d'isolement,
voilà.
D'une part. Il y a autre chose sur laquelle je voudrais revenir, parce que, bon, évidemment, en une heure, on ne va pas avoir le temps d'aborder tout ce qu'il y a dans ce livre, qui, une fois de plus, est d'une richesse extraordinaire. Mais il y a un point que je voudrais vraiment aborder avec vous, parce que ça m'a frappé. Vous dites que depuis les années 70, on a changé de prisme sur la victoire. Vous dites, avant, on glorifiait les vainqueurs. Depuis les années 70, on est en empathie des vaincus.
Oui.
La police, l'armée, les militaires sont devenus l'oppression.
Oui.
Et finalement, notre rapport à la mort a aussi changé à cet endroit-là. Nous n'avons pas les mêmes héros.
Et oui. C'est-à-dire que pendant des millénaires, quand les hommes faisaient la guerre, les premières guerres recensées, c'était sous... il y avait sûrement des guerres tout le temps entre êtres humains, mais à l'époque de des cités-états de la Syrie, quand une population n'avait plus à manger, plus d'eau, on galvanisait les bagarreurs, on les armait et on les envoyait attaquer la cité d'à côté. Et quand ils revenaient avec des vivres, avec de l'eau, tout le monde faisait la fête. On héroïsait la violence des hommes. La violence des hommes qui consistait à tuer et à voler, le pillage, pendant la guerre de 40, le pillage était normal. C'est-à-dire que maintenant, c'est considéré comme un crime. Alors, cette manière-là d'héroïser les hommes a fait une culture de la violence. Mais maintenant, c'est plus possible. Depuis les années 70, après, la psychologie s'est développée et on s'est intéressé au monde des autres et on s'est rendu compte que quand on était violent avec l'autre, on le rendait malheureux. Quand on était violent, même verbalement, quand on est violent avec un bébé, on altère son cerveau. C'est-à-dire ça, c'est une découverte de la neuroimagerie. Quand on crie autour d'un bébé, on altère le cerveau du bébé. Alors beaucoup de parents violents nous disaient « Mais lui, le bébé, on ne l'a pas touché. » C'est pas vrai. Quand on crie, quand les parents se battent ou crient en présence du bébé, le bébé a peur, ses deux figures d'attachement sont devenues deux figures effrayantes. Il sécrète les hormones du stress, cortisol, catécholamine, et on voit que son cerveau s'éteint. C'est-à-dire même une insulte verbale répétée régulièrement finit par provoquer des altérations du cerveau. On touche le cerveau du bébé avec des mots, avec des cris. Donc, d'où le bébé a besoin d'un milieu stable et sécurisant, au moins jusqu'à la troisième année. Si les parents s'entendent pas, bon, ben ça arrive, hein, ça fait partie des difficultés de la vie. Mais au moins faire un effort, si quand c'est possible, c'est pas toujours possible, mais au moins faire un effort, au moins pendant jusqu'à la troisième année, jusqu'à l'apparition de la parole, parce que là, on peut expliquer au bébé, à l'enfant, voilà, ton père et ta mère, ils s'entendent pas, mais là, on a une autre source sécurisante. On n'a pas que le corps à corps, on peut expliquer les mots, peuvent expliquer au bébé, voilà, ça va, toi, tu n'as commis aucune faute, on continue à t'aimer, mais on t'aimera pas de la même manière. Alors là, il peut comprendre, alors qu'avant, il ne peut pas comprendre. Tant qu'il n'a pas accès au monde des mots et au monde des récits, il ne peut pas comprendre. Donc, il y a notre culture, toutes les espèces qui ont disparu par leur point fort. Le point fort des dinosaures, c'était 60 tonnes et manger sans arrêt de l'herbe. Ils ont disparu. Et les rongeurs qui étaient vulnérables, dont on est issu, on est des mammifères, ont survécu et même se sont développés. Le point fort de la condition humaine, c'est l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe qui nous a permis de créer, d'inventer le dessin dont on parlait. L'enfant invente sa petite œuvre d'art, c'est son point fort. Plus tard, il pourra s'expliquer, c'est son point fort. Plus tard, il pourra lire des livres et écouter des récits, c'est son point fort. Et ce point fort devient aussi un point faible. C'est-à-dire que toutes les espèces disparaissent par leur point fort, et nous, notre point fort, c'est la parole, on risque de disparaître par la parole. C'est-à-dire que ce qu'on voit apparaître, là je vais reprendre Hannah Arendt, que j'ai beaucoup fréquenté ces dernières années, je vais reprendre Hannah Arendt, le langage totalitaire. Quand il n'y a qu'une seule vérité, le monde est appauvri, on méprise ceux qui n'habitent pas le même monde que nous. Et là, et on voit de plus en plus réapparaître ceux qui prétendent avoir toute la vérité. Je vais vous dire comment il faut vivre. Je vais vous dire ceux par qui le malheur arrive. J'ai eu la chance de côtoyer René Girard, qui était niçois, mais qui est devenu professeur aux États-Unis. Et j'ai eu la chance de le côtoyer. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le bouc émissaire ». Et René Girard nous explique que quand un pays ou une personne est en difficulté, il cherche à savoir d'où vient le mal, ce qu'on peut comprendre. Et il trouve toujours, quand une société est en difficulté, les récits collectifs trouvent toujours les mêmes boucs émissaires, les étrangers, les juifs, les sorcières. Et actuellement, on voit réapparaître des tas de pays qui commencent à faire la chasse aux étrangers, même quand les étrangers font marcher le pays, parce que la population vieillit, ben il faut faire la chasse aux étrangers. Les juifs, on voit réapparaître les mêmes phrases que celles que j'ai entendues à Bordeaux pendant les années 40 et même après, quand j'étais à Langon, après la guerre. Donc c'est les mêmes phrases qu'on entend. Et les sorcières, les femmes s'épanouissent mieux que jamais dans l'histoire de la humaine. Elles n'ont jamais été autant respectées qu'aujourd'hui, même s'il y a encore des progrès à faire, il y a quand même des progrès fantastiques. On voit apparaître le masculinisme, qui est une théorie terrifiante, stupide, qui prouve que certains hommes, humiliés par l'épanouissement des femmes, les rendent responsables de leur malheur. Le bouc émissaire.
C'est bientôt la fin. Alors, vous savez, quand je regarde comme ça en l'air, c'est pas parce que j'ai des tics, hein, c'est parce qu'il y a une horloge. Je voulais vous le dire quand même, parce que... La dernière question que je voudrais vous poser, Boris Cyrulnik, finalement, elle sort de votre livre, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre, vous et moi, sur ce plateau, qu'on a le temps, et que du coup, je lis vos livres. Et j'aimerais bien savoir ce que vous avez le plus aimé faire dans votre vie.
Vivre. Parce que ça, le plaisir de vivre commence avec les petites choses, les petits bonheurs. Le réveil du matin, le petit déjeuner. Oh mon vieux, le petit déjeuner. C'est déjà un grand petit bonheur. Rencontrer des gens, le plaisir de rencontrer. Alors, et de rencontrer des gens avec qui on peut échanger. Je te donne quelque chose, toi tu me donnes autre chose. On peut échanger des mots, on peut échanger des idées, on peut échanger des aliments. Alors ça, les femmes sont étonnantes. Hein. Avec les cadeaux alimentaires, je fais passer beaucoup de thèses parce que les gens me surestiment incroyablement. Donc je fais passer beaucoup de thèses. Et les femmes qui deviennent docteurs, à la fin du doctorat, quand on les applaudit parce qu'elles ont réussi leur doctorat, je vous promets que c'est vrai, elles ont toutes des petits cadeaux alimentaires. Elles ont des biscuits, des petits... C'est charmant, c'est adorable. Donc, c'est pas... si elles nous offrent des cadeaux alimentaires, c'est pas pour nous nourrir, c'est pour nous faire plaisir. Quand on invite une femme au restaurant, c'est pas pour lui donner à manger. C'est...
Ah bon ?
Elle se débrouille très bien sans nous. C'est pour échanger des mots, c'est pour faire une proximité affective. Et plus si affinité, mais ça ne nous regarde pas.
Mais alors, quand même, là, vous êtes plus que jamais au cœur de ce que vous avez aimé faire, Boris Cyrulnik, puisque dans votre livre, vous le dites aussi, vous dites aujourd'hui, la science, elle est transversale. Oui. Et voilà, en fait, on parle de neurochirurgie en même temps qu'on parle de psychanalyse et de psychologie, en même temps qu'on parle de linguistique et de... Donc, en fait, là, vous étiez au cœur d'une conversation. Vous êtes en ce moment au cœur d'une conversation géante et de rencontres extraordinaires.
Alors, merci pour cette question, parce que ça caractérise l'espoir de notre nouvelle culture. C'est-à-dire, vous avez employé le mot transversal. C'est-à-dire qu'il faut renoncer au savoir cloisonné. Parce que le savoir cloisonné, qui a fait les carrières universitaires, qui a obtenu des prix Nobel, merci le savoir cloisonné, mais qui nous coupe de l'autre. J'ai connu, quand j'ai passé mon examen de spécialité, j'ai été interne à Paris en 64-65, j'ai passé mon examen de spécialité en 70, et j'ai connu quelques années de psychiatrie désolante, parce qu'on expliquait tout, soit par la biologie, les molécules vont tout régler, soit par la psychanalyse, c'est pas la peine d'apprendre autre chose, la psychanalyse va tout régler. Et ça fait des luttes de clans. Chacun méprisait l'autre. Celle qui connaissait bien la biologie méprisait le psychanalyste, et le psychanalyste méprisait la biologie. Or, il y a une part de biologie en nous, et bien sûr, ce qui nous caractérise, c'est la parole. Mais il y a une part de biologie avant d'arriver à la parole. Et puis, il y a la psychanalyse a été une révolution épanouissante à la fin du 19e siècle, quand Freud a permis de découvrir le monde du dedans, parce qu'avant Freud, on expliquait les difficultés, les souffrances psychologiques, soit par le mauvais œil, ça existe encore, mais c'était l'explication habituelle, soit par la mauvaise qualité cérébrale, le racisme. C'est-à-dire que c'était deux clans de pensée qui, je crois, m'ont gâché les premières décennies de ma pratique, où j'avais des conflits stupides. Alors, c'est biologique ou c'est psychologique ou c'est culturel ou c'est... Eh ben, ça dépend, c'est les deux. C'est les deux. Et maintenant, on emploie de plus en plus des raisonnements bioculturels. Et il y a quelques années, il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Alors, c'est biologique ou c'est culturel? Eh ben, c'est bioculturel. Alors, c'est-à-dire que... Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce raisonnement. Et donc, ça veut dire que maintenant, le CNRS, l'INSERM, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, ne donne de bourses de recherche que pour les équipes qui font des équipes transversales, pluridisciplinaires. Ce que j'ai fait, je crois que c'est une des premières rencontres a eu lieu à Bordeaux, où Philippe Bruneau, un Bordelais, qui avait organisé un congrès sur la biologie du langage. Vous voyez, c'est avant lui, avant ce congrès, c'était impensable, biologie du langage. Eh bien oui, si notre cerveau est altéré, on ne parle pas, et les mots qu'on prononce sculptent notre cerveau. Si vous me parlez gentiment, vous allez augmenter ma sécrétion d'ocytocine, la neurohormone qui donne le plaisir de vivre. Si vous m'insultez ou si vous me parlez méchamment, vous allez augmenter ma sécrétion de catécholamines, qui est les hormones du stress, qui agressent le cerveau. Vous voyez le pouvoir que vous avez sur moi.
Et j'en aurais abusé avec joie ces dernières années. Merci beaucoup, Maurice Cyrulnik.
Merci.
Merci à vous.